Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Nous continuons l'examen des commandements de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer le 8e commandement de Dieu qui dit « Tu ne feras pas de faux témoignage ». Ça peut aller du gamin pris en faute à la subversion mondialiste. On réduit souvent ce commandement à une interdiction du mensonge. Interdiction à laquelle certains esprits scrupuleux ou mal intentionnés lisent l'obligation de proclamer n'importe quand n'importe quelle vérité. L'exemple de notre Seigneur lui-même, qui a dit « Je n'irai pas à Jérusalem » et qui est quand même allé, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 7, versets 8 à 10, montre que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Notons également en passant que mensonges et vérités ne sont pas aussi liés que beaucoup le pensent. Le catéchisme définissait le mensonge comme parler contre sa pensée avec l'intention de tromper. On peut donc mentir en disant une vérité dès lors qu'elle est présentée de manière à tromper sur la nature profonde des choses. J'irai même jusqu'au bout, à l'heure où tout le monde était persuadé que la terre était plate, affirmer à quelqu'un qu'elle était ronde était un authentique mensonge bien qu'on ait dit la vérité. Le sport cérébral du mensonge réel en disant la vérité est devenu de nos jours une véritable industrie. En revanche, on peut avoir à cacher une vérité, par exemple au nom du secret professionnel. Le péché est alors de la divulguer. Il y a la confession, il y a toutes les obligations de discrétion professionnelle. On peut aussi souhaiter dissimuler tout ou partie d'une vérité qui serait trop dure à supporter par son interlocuteur. Cas d'un malade auquel on minimise la gravité de son état. Ce genre de mensonge diplomatique est une affaire purement prudentielle. À part ces deux cas particuliers, on peut distinguer trois sortes de mensonges. Le mensonge égoïste, la calomnie et le faux témoignage. Le mensonge égoïste a pour but uniquement un avantage personnel. Il y a d'abord le coupable honteux. C'est le cri bien connu de l'enfant pris en faute, c'est pas moi, c'est l'autre. Misérable cachotterie, excuse pitoyable, on refuse d'assumer les conséquences de ses actes. Peut-être est-ce là le mal du siècle, celui qui nous vaut de la bière ou du vin sans alcool, du café sans café, du thé sans thé, du thé lait sans crème et du sexe sans enfant. On veut des diplômes sans examen, la sécurité en tout et l'effort en rien. Ce genre de mensonge culmine avec toute une famille de pensées qui décrète que chacun n'est que le produit de son milieu. Mozart n'est que le fils de son père. Mais alors pourrait-on se demander qui est donc ce génie au carré de Léopold Mozart? Moyennant ces penseurs, on est parfaitement innocent de ses bonnes comme de ses mauvaises actions. On comprend qu'il suffise de désigner par un numéro matricule ce piètre robot interchangeable. On ne répétera jamais assez que la grandeur de l'homme, la source de sa fierté, est de se sentir responsable de ses actes, de les assumer, comme on dit aujourd'hui, sans chercher à tricher désespérément avec la nature des choses. Avoir le courage de reconnaître ses torts est le premier stade de la dignité humaine. Un homme qui a toujours raison ne risque pas de faire des progrès. L'avantardise. Cette fois, il ne s'agit plus d'échapper à une sentence, mais de susciter une admiration indue. Cela va de l'histoire dite histoire marseillaise, comme celle de l'homme, c'est Gustave Thibon qui racontait, auquel son confesseur demandait « Mais c'est tout ce que vous avez accusé ? Oui, mon père. Vous n'avez pas un peu trompé votre femme ?» Il a répondu superbement « Mon père, je suis ici pour le confesser et non pas pour me vanter. » Les Parisiens n'ont d'ailleurs rien à envier aux Marseillais sur ce point. Des exemples sur Amonde. Ils montrent que les vantards sont le plus souvent des inquiets plutôt que des orgueilleux. Ils sont assoiffés du moindre honneur, fussent-ils les plus éphémères. Je ne sais pas beaucoup d'êtres humains qui peuvent affirmer en leur âme et conscience qu'ils n'ont jamais succombé à pareille tentation. Un tel vice de pensée peut toutefois déboucher sur des faits très graves dès lors qu'ils rendent une vie sociale impossible, provoquant des colères dont ils ont une bonne part de responsabilité. En outre, le vantard récidiviste est en général un égoïste forcené qui renforce sa vantardise par son égoïsme et recueille bien souvent le mépris de la part de ses contemporains, de ses compagnons de travail, de sa famille. Il faut savoir humblement se contenter d'être ce qu'on est et se rappeler constamment que ce que nous appelons justement nos dons nous ont été confiés par le Créateur comme à des intendants et que nous aurons à rendre compte de leur gestion. Il n'y a aucun mérite à avoir des dons, simplement des devoirs. Ensuite, la tricherie, qui se situe encore un étage en dessous. Il ne s'agit plus de surestimer sa personne, mais de chercher un profit au moyen du mensonge. Actuellement, dans la crise boursière, nous en avons je ne sais trop combien d'exemples. Le 8e commandement est ici très proche du 7e, qu'il s'agit du vendeur malhonnête ou de celui qui s'approprie l'intelligence ou l'habileté d'autrui. Là aussi, il existe des mensonges qui consistent à présenter des vérités de manière à tromper, que l'on pourrait appeler mensonges au deuxième degré. Les exemples abondent dans le monde actuel, où sous divers prétextes apparemment moraux, on se livre à une guerre commerciale sans merci. Il est facile de trouver des exemples récents. Qu'y a-t-il de plus écologique que de consigner les bouteilles afin d'éviter l'augmentation du poids des ordures ? Moyennant quoi, un pays que je nommerai pas a décidé qu'un seul type de bouteille de bière serait autorisé, celui de la production nationale bien entendu, frappant ainsi de taxes toutes les bières importées. La couche protectrice d'ozone de la haute atmosphère est attaquée par les gaz propulseurs de bouteilles de lac utilisées par les élégantes. Il est curieux que cette découverte ait coïncidé avec la mise sur le marché d'un nouveau gaz, dûment breveté par une puissante firme américaine bien connue, et qui a ainsi empoché toutes les royalties. Il faut éviter de produire du gaz carbonique par une combustion exagérée de combustibles fossiles. Il faut donc taxer l'énergie grande utilisatrice de pétrole. Fort bien. Mais au nom de quel principe taxer également l'énergie nucléaire qui ne produit pas un gramme de ce gaz, etc., etc. Quant à la propriété intellectuelle, on sait que certains individus sont des experts dans ce genre d'arnaque, du plus anodin au plus odieux. Tous les lecteurs de revues techniques savent que lorsqu'un article est signé de plusieurs noms, il n'y en a qu'un, en général le dernier, qui l'a rédigé. En milieu universitaire, l'emploi de nègres est chose courante. Maintenant, ces coupables pratiques se généralisent en milieu industriel, où maintes entreprises modestes se voient brusquement obligées de payer des royalties à un consortium puissant qui a pris un brevet sur sa propre invention. Vol et mensonge vont de pair. Certes, il faut parfois du courage à un patron pour rendre à chaque subordonné justice dans l'attribution de son travail, mais il n'y a pas de vertu sans courage. La calomnie. La calomnie est un mensonge pour nuire. Tous les mensonges précédents avaient pour but un avantage personnel. Sans être excusables pour autant, ils sont tout de même moins odieux que les mensonges qui ont pour but direct de nuire à autrui. La calomnie commerciale. On bâtit une légende à partir d'incidents futiles ou sans incident du tout. On m'a dit que telle marque de voiture ne valait rien, ne tenait pas la route. En cas de fait, il est impossible de trouver un témoignage direct. Si on en trouve un, on constate que les faits ont été amplifiés bien au-delà du raisonnable. Une variante actuelle consiste à déclarer cancérigène. Le cancer a pris place dans les grandes terreurs à la place que tenait la peste ou la lèpre au XIIIe et XIVe siècle. Tel produit alimentaire ou non. On dit que les usines d'incinération produisent des cancers au bout de 20 ans, sans ajouter que depuis 20 ans, les techniques d'incinération ont complètement changé, ainsi que le mode d'épuration des fumées. On disait alors, certains pyjamas pour bébés ont été retirés à la vente à grand fracas, on les disait cancérigènes en raison du tissu, ils étaient parfaitement inoffensifs. La saccharine était jugée abominable pendant la guerre, alors que le sucre était rarissime, elle est maintenant un des principaux constituants de la nouvelle détectique. On la trouve sur toutes les tables des hôtels. Et ensuite, la calomnie personnelle, ces mœurs prolifèrent en politique. On le voit actuellement, alors ça. On suggère, on insinue. Tel homme politique se rend souvent dans la capitale, c'est qu'il y a une maîtresse. Tel autre était un peu fatigué lors d'un discours, c'est qu'il avait trop bu, qu'il devient gâteux. Un autre n'a aucune lésion féminine, il est donc pédéraste. Tout régime porte, toute réussite porte ombrage à un envieux, et on pourrait dire à un homme. Elle ne peut jamais être honnête. Les mœurs d'un adversaire ne sauraient être pures. On l'a bien vu dans le cas du père d'Agnelou. D'ailleurs, on sait bien que notre Seigneur passait son temps entre les publicains et les prostituées. Et ensuite, la calomnie assassine, celle que la haine utilise pour pousser au meurtre. Nous l'avons déjà rencontré avec la Révolution, qui fut experte en sa manière, allant jusqu'à accuser Marie-Antoinette d'être une mère dénaturée. Mais auparavant, il y avait eu Sainte Jeanne d'Arc accusée de sorcellerie, et depuis Paganini en plein XIXe siècle, dont on disait que sa virtuosité, à vrai dire extraordinaire, cachait quelque chose de diabolique. Ce genre de calomnie s'attaque volontiers à l'Église qui se voit victime de légendes aussi tenaces que stupides, comme la papesse Jeanne, voire les ceintures de chasteté dont l'existence était restée inconnue jusqu'au XVIIe siècle. Rabelais n'aurait pas manqué d'en parler abondamment si ça n'avait été le cas. Combien de temps a-t-il fallu pour faire admettre que les sinistres cachots du Mont-Saint-Michel n'étaient en réalité que des silos à grains ? La calomnie assassine est la spécialité de tous les tribunaux révolutionnaires, ceux du nazisme, de la libération, du communisme stalinien ou maoïste. Dieu nous épargne leur réapparition. Je m'aperçois que mon laïus est déjà assez important. Je vais donc l'interrompre là, laissant la fin du 8e commandement de Dieu pour le mois prochain. Mais il est certain qu'actuellement, nous vivons en pleine dictature du mensonge. On n'arrête pas d'en entendre, que ce soit en politique, que ce soit dans le milieu économique et tout. On ne peut plus actuellement croire un mot de ce que racontent les journaux. On ne peut, parce qu'ils sont tous complètement pris par l'industrie de la désinformation, comme on dit. Nous verrons le mois prochain les conséquences politiques de tout cela. Je vous souhaite une bonne fin de carême. La prochaine fois, je vous souhaiterai de bonnes fêtes de Pâques.